Escale, un magazine hebdomadaire de la Radio des Nations Unies. Escale.
Escale cette semaine dans le temps et en Haïti. Invité de cette édition, Michel Montaz, une survivante du tremblement de terre de janvier 2010 en Haïti, m'a fait au micro. Bonjour à tous. Deux ans après le tremblement de terre en Haïti, Michel Montaz, ancienne porte-parole du secrétaire général des Nations Unies et ancienne conseillère spéciale d'Edmond Mulet, représentant spécial de Ban Ki-moon sur le terrain, elle-même haïtienne, estime que le gouvernement haïtien n'a reçu qu'un pour cent des 11 milliards de dollars alloués par la communauté internationale à Haïti. Michel Montaz plaide pour que l'on fasse davantage confiance à son peuple qui, selon elle, doit être seul maître de son destin. Dans une émouvante interview qu'elle nous a accordée à l'occasion du deuxième anniversaire du tremblement de terre, elle revient sur les temps forts de la reconstruction, même si, ajoute-t-elle, Port-au-Prince demeure une ville morte avec des Haïtiens vivants.
Ça fait deux ans, mais deux ans, ça n'efface pas la douleur. Deux ans, ça n'efface pas les souvenirs extrêmement douloureux de cette période. Et deux ans, c'est rien. Deux ans, c'est en parler maintenant, c'est comme gratter une cicatrice encore fraîche. C'est toujours aussi pénible. Le premier jour, là où comment c'est arrivé, j'ai des images de tas de choses. Dormir à la Belle Étoile pendant 3, 4, 5 jours avec les bonnes sœurs d'enfants. Face de chez moi, assise au milieu de la rue parce que on avait peur de rentrer dans la maison. Je me souviens des répliques qui arrivaient. Évidemment, on a écrit après qu'il y en avait eu 52. J'ai pas compté 52, mais je me souviens moi de la peur et du désespoir des gens. Parce que les gens sur les places publiques pleuraient, criaient, priaient à haute voix. Et ça a duré des jours et des jours et des jours. Je m'en souviens de façon aiguë, bien que c'est seulement le lendemain du séisme que je me suis rendu compte de l'étendue de la destruction sur Port-au-Prince, par exemple.
Alors, Port-au-Prince, ville meurtrie au lendemain du séisme, est une ville aux odeurs et aux couleurs de la mort. Aujourd'hui, deux ans après, à quoi ressemble Port-au-Prince ?
Port-au-Prince est toujours mort. C'est-à-dire que ce qui met de la vie dans Port-au-Prince, c'est la multitude de survivants, de gens qui, et ça c'est Haïti, de gens qui sont déterminés, qui étaient déterminés 4 jours après le séisme, de recommencer à vivre, de recommencer à vendre des chaussures, les voitures écrabouillées sur les ruines des maisons. Mais Port-au-Prince, en tant que ville qui date de la fin du 16e, Port-au-Prince, tel que je l'ai connu, gosse, les églises, tous les repères... les repères du 19e, qui était vraiment le bas de la ville. Bon, tout ça, c'est parti. C'est-à-dire, ça n'existe plus. On a enlevé une partie des débris. Enfin, Port-au-Prince est mort. Les gens, les Port-au-Princiens, sont vivants. Avant le séisme, ou avant les tremblements de terre, avant les inondations, Haïti n'a pas eu de chance, c'est vrai. Le tremblement de terre n'a pas affecté seulement des gens qui ont eu leur maison détruite. Ça a affecté ceux qui, dans les bidonvilles, allaient vers les cités de tentes parce que c'était là qu'il y avait de l'eau, c'était là qu'on leur donnait à manger, c'était là qu'ils pouvaient espérer trouver quelque chose. Ils n'avaient pas d'eau, ils n'avaient pas d'électricité chez eux avant. Donc en fait, c'est un problème ancestral qui s'est accroché à quelque chose d'immédiat et de courant, la tragédie de ce tremblement de terre qui a fait 300 000 morts.
11 milliards de dollars avaient été promis quelques semaines après le tremblement de terre. Aujourd'hui, où est parti cet argent?
Tout cet argent n'a pas été déboursé. D'abord, il y a eu des promesses. Cet argent a été en grande partie déboursé, mais une grande partie de cet argent a été très utile et a été vers la survie. Les équipes médicales qui allaient, les équipes de secours qui allaient pour essayer de retrouver les gens, ils ont eu quand même plus de chance, catché, de retrouver des gens encore vivants, même si ces gens avaient eu des blessures graves. Au début, rien ne rentrait dans la capitale. Il n'y avait pas à manger, il n'y avait rien, il n'y avait pas de marché, il n'y avait rien. Et il n'y avait pas d'eau. Et l'aide internationale a été à ça, c'est-à-dire ce que j'ai appelé l'aide de survie. Maintenant, quand nous parlons de l'aide à la reconstruction, c'est autre chose. Quand on regarde Port-au-Prince aujourd'hui, on voit très peu de reconstruction. Ce qu'on voit, c'est dans une banlieue de Port-au-Prince, Pétionville, on a une multitude de bureaux qui étaient à Port-au-Prince, ils sont installés dans cette petite ville. Ce qui s'est passé avec l'argent de la reconstruction, d'abord, il faut dire que cet argent de la reconstruction n'a presque pas été au gouvernement haïtien. 1% a été au gouvernement haïtien. Directement aux Haïtiens eux-mêmes, c'est très difficile à évaluer.
Mais est-ce que vous pensez qu'il est fiable, ce nouveau gouvernement haïtien? Pendant des décennies, on n'a pas arrêté de parler de corruption, de mauvaise gouvernance, de mauvaise gestion de l'aide. Est-ce qu'aujourd'hui, ce gouvernement est fiable pour gérer toutes ces sommes-là?
Ça me fait rire parce que comment se fait-il qu'on donne à un gouvernement depuis 20 ans ou davantage, 25 ans, 30 ans, Haïti ne reçoit pas d'argent directement de l'aide externe? Ce sont toujours les ONG internationales qui reçoivent l'argent et les gouvernements qui sont sur place et qui font leur propre aide à des secteurs donnés. Si vous parlez de corruption sur 1% de l'argent, mon Dieu, c'est quand même très minime. Cette corruption est en fait, à mon avis, un prétexte. Parce que l'aide internationale, et là je ne parle pas de l'aide spontanée, que quelqu'un qui vit dans le Midwest décide de donner aux pauvres d'Haïti, ça c'était spontané, c'était beau, c'était superbe cette solidarité. Et cette solidarité, je crois qu'elle a servi et elle a été là où elle devait aller. Bon, ce qui s'est passé pour la reconstruction, c'est que maintenant il s'agit de gouvernements qui prennent des décisions et qui incluent ou non le gouvernement haïtien dans leur plan. Ça a été un petit peu différent. Une partie de l'argent du gouvernement américain a certainement été à payer les frais des troupes américaines qui étaient venues en Haïti apporter cette aide. Les chiffres sont là, ils sont clairs. Quelle quantité d'argent a été remboursée à des autres organismes du gouvernement américain? Ça, c'est un exemple. C'est la même chose pour le gouvernement canadien et pour d'autres gouvernements. Et là, je crois que faut pas non plus voir le grand chiffre et puis s'imaginer qu'il y a une pluie d'argent qui est tombée sur Haïti. On avait calculé 175 $ par tête de personne, par Haïtien. Je suis sûr qu'aucun Haïtien n'a jamais vu les 155 $ dont on parle. C'est pas aussi simple. C'est compliqué. Il y a des signes de reconstruction. On ne pensait pas qu'on arriverait à déblayer autant, après 2 ans, autant de débris. Et il y a des pôles de développement qui se font dans le nord d'Haïti, à Caracol. Il y a par exemple un hôpital universitaire qui est construit à Mirbalais, dans le centre du pays, avec l'idée de décentraliser Port-au-Prince. Il y a certains symboles, parce qu'il ne faut pas oublier que ça a été aussi un traumatisme psychologique énorme. Et là, certains symboles sont en train d'être construits. Un d'entre eux, c'est le marché en fer, que nous appelons le marché en fer. C'est une immense structure qui date du 19e siècle, où des marchands travaillaient et qui s'étaient écroulés. Eh bien, il y a une compagnie de télécommunications privée, qui a décidé d'aider à reconstruire ça. Ça, pour l'Haïtien, ça a été un symbole. Qu'on n'était pas tout à fait par terre. Toutes les églises étaient par terre. Le palais national était par terre. Tout était par terre. Et puis, il y a eu, soudainement, ce marché en fer qui a été réérigé. Donner de l'espoir, je crois que c'est important.
Aujourd'hui, 500, 600 000 personnes vivent encore sous les tentes. À Port-au-Prince, y a-t-il des chances que ces tentes disparaissent ou ça arrange un peu tout le monde, les plus démunis, les habitants de Cité-Soleil mélangés aux survivants, etc.?
Bon, ces 600 000 personnes, je crois que quand on pose la question aux habitants de cette cité de tentes, ils vous diront, eux, ils préfèrent aller chez eux. Les tentes sont déchirées après 2 ans, il n'y a plus de tentes. On ne distribue plus d'eau, on ne distribue plus de nourriture. Donc en fait, eux, la seule chose, c'est qu'ils ne paient pas de loyer. Si on ne s'attaque pas plus profondément au problème du logement, bon, je crois que ces 600 000 resteront 600 000 pendant longtemps.
Qu'en est-il de ces projets de rêve qui consistaient à relocaliser tous les survivants du séisme en dehors de Port-au-Prince dans des habitations décentes?
Oui, mais ça, s'il y en a 25 000 d'habités maintenant, c'est beaucoup. C'est-à-dire qu'il y a eu des structures temporaires qui ont été érigées au cours de cette dernière année. Il y a eu des gens qui ont pu s'installer dans ces structures temporaires. Mais dans la majorité des cas, ce sont des maisons qui étaient ce qu'on appelait des maisons jaunes, c'est-à-dire des maisons qui avaient été abîmées, mais qui n'étaient pas à détruire. Ce sont ces maisons-là qui ont été réhabilitées par leurs propriétaires ou par les locataires et qui ont reçu de l'aide pour pouvoir retourner dans ces maisons-là. Il y a eu quelque chose de construits, mais très très peu par rapport aux besoins.
Alors, en 2010, lorsque le séisme a eu lieu, il a eu lieu quelques jours à peine au lendemain de votre départ à la retraite des Nations Unies. Très vite, très rapidement, la MINUSTA vous a appelé, le secrétaire général vous a demandé d'aller aider la MINUSTA et vous avez été nommé conseillère spéciale du représentant spécial de Ban Ki-moon à la MINUSTA, une MINUSTA qui se transformait de mission de maintien de la paix en mission toute humanitaire. Quelle a été votre contribution à cette mission, mais surtout votre peuple d'Haïti ?
Moi, je crois essentiellement que ce que j'ai pu faire, c'était servir de liaison entre la structure haïtienne et la structure internationale. Mais c'était de l'improvisation la plus totale. Et c'était les moments les plus, je dois dire, les plus enrichissants. Où je me souviens de deux fois par jour, je faisais à pied la route qui allait du camp de la MINUSTA, puisqu'on avait mis tout le monde près de l'aéroport, du camp de la MINUSTA au camp où se trouvait le gouvernement haïtien, qui était dans une ancienne, un des rares postes de police qui ne s'était pas effondré, donc c'était le poste de police judiciaire. Et j'allais, je venais pour créer un rapport quelconque entre les deux entités. C'était le chaos le plus complet. Et là, si j'ai pu aider à ce que ce chaos soit un petit peu mis en ordre pour pouvoir servir Haïti et servir le peuple haïtien, je suis contente de ça, oui.
À un certain moment, un peu avant les élections, il y avait une rumeur qui courait que vous alliez vous présenter aux élections. En Haïti, pourquoi vous n'avez pas pensé à cela ?
Parce que moi, je crois que ce serait tuer toutes mes possibilités de faire quelque chose pour Haïti. Dans la mesure où j'estime que j'ai toujours travaillé comme journaliste en dehors du système, j'ai toujours travaillé dans toutes mes capacités pour Haïti en dehors du système haïtien. Et le système haïtien, je le crains bien, est handicapé par des tonnes de bureaucratie. Et personnellement, je n'aurais pas aimé être à l'intérieur de ça. Je pense pouvoir être beaucoup plus utile étant à l'extérieur, étant une voix.
Qu'est-ce qui est nécessaire aujourd'hui pour Haïti et pour la MINUSTA ? C'est toutes ces sommes qui sont allouées aux frais des militaires sur le terrain ou plus une orientation vers encore une mission d'assistance au peuple haïtien qui sert plus les intérêts du peuple haïtien et où les sous sont orientés en direction des intérêts du peuple haïtien ?
Bon, cela se fait déjà à travers d'autres organismes que la MINUSTA elle-même, c'est-à-dire le PNUD qui a une très forte présence en Haïti, l'UNICEF qui fait énormément depuis le tremblement de terre. Donc il y a des choses qui sont faites qui ne sont pas du mandat de la MINUSTA.
Michel, est-ce que les Haïtiens aujourd'hui ont envie de continuer de voir dans leur pays des hommes en uniforme, même s'il s'agit de casques bleus ? Est-ce que c'est ça ce dont ils ont besoin ?
Je crois que pour la question de sécurité, ils estiment que peut-être la MINUSTA est un mal nécessaire. Il y a une section civile à la MINUSTA qui a fait énormément dans les derniers deux ans et avant ça sur des projets à impact rapide. Qui aident des communautés. Ça continue. Et il y a eu énormément d'imagination déployée par ces unités pour essayer d'aider les Haïtiens. C'est vrai que ce qui est le plus visible, c'est l'aspect militaire. Et c'est vrai que l'aspect militaire est là pour des raisons de sécurité. Mais Haïti n'est pas un pays en guerre. Et les Haïtiens, il n'y a pas de doute, se disent tôt ou tard, il faut que cette énorme présence militaire diminue pour que ce soit autre chose, pour que l'aide internationale soit autre chose.
Je voulais qu'on finisse très rapidement sur un arrêt sur image. Il y a une image qui ne vous quitte jamais des yeux ?
Oui, il y en a une. Le lendemain matin, il était 6h du matin, je descendais sur la route qui mène de Pétionville à Port-au-Prince. J'ai vu une femme qui transportait sur son dos son fils blessé, sans connaissance. Le fils avait deux fois sa taille. Et elle cherchait un hôpital. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas si elle a jamais trouvé cet hôpital. Cette image ne m'a jamais laissée.
Deux ans après le séisme meurtrier en Haïti, Michel Montaz se souvient. Merci à cette femme courage d'avoir été mon invitée. Ma Fayek, Zach Prouet, Carlos Messias et Florence Westgaard vous remercient d'avoir été à l'écoute et à très bientôt pour une nouvelle escale.